Bonjour à tous, c'est Seb pour votre émission Ça roule, l'émission de l'automobile, mais pas que. Cette semaine, au sommaire de Ça roule, histoire des voitures françaises d'hier et d'aujourd'hui, avec les 50 ans de deux hauts de gamme français, j'ai nommé la Renault 30 et la Peugeot 604. Cette émission va être consacrée aux deux stars de l'automobile française du milieu des années 70, qui se partageaient alors sans ménagement le titre honorifique de haut de gamme français. Cette émission sera en deux parties. Tout de suite, la première partie avec les 50 ans de la Renault 30. Alors que Peugeot choisissait le consensus avec un haut de gamme à 3 volumes et propulsion, Renault persistait dans l'originalité. Après la Renault 16, en présentant en mars 1975 une R30 plus compacte, traction et 2 volumes à haillons. Fruit d'un partenariat et d'une longue réflexion sur le haut de gamme entamé au mi-temps des années 60. Les Peugeot 604 et Renault 30 se partageaient le marché avec des approches radicalement différentes, mais un moteur commun, le controversé V6 PRV. PRV pour Peugeot, Renault, Volvo. À l'arrivée, les deux véhicules continuent un destin similaire. L'indifférence de la clientèle et l'obligation de ratisser large grâce au turbo-diesel. Retour donc sur la grande Renault 30, la R30 comme on l'appelait, qui à défaut de réussite permettra à Renault de mieux envisager le haut de gamme dans les années 80, avec ensuite la célèbre Renault 25. Alors tout d'abord un peu d'histoire. Contrairement à Peugeot, qui s'est longtemps concentré sur le milieu de gamme, avec ses Peugeot 203, 403, puis 404, Renault n'a jamais renoncé au haut de gamme, lançant une frégate dès 1951 avec l'espoir de concurrencer la dominante mais vieillissante Citroën Traction, mais sans oser lancer un nouveau 6 cylindres. La sortie de la Citroën DS en 1955 la ringardise vite, et Renault se voit contraint de bricoler dans les années 60 avec une Rambler qui n'avait de Renault que le nom et encore. L'association ensuite avec Peugeot en 1965 permet de rationaliser les achats mais aussi de mutualiser les recherches sur certains modèles. Cet accord d'ailleurs donnera naissance à de nombreux projets communs et notamment la réalisation d'un haut de gamme qui s'appelait alors le projet H. Et d'une doublette de moteurs, moteur modulaire Z avec le V8 ZO et le V6 ZM, tous deux à 90 degrés, produits par une société commune qui était la Française de Mécanique. Ces deux projets accoucheront dans les années 70, deux modèles que nous connaîtrons, qui seront la Renault 30 et la Peugeot 604 à moteur V6 PRV. Pour le projet H, les deux constructeurs vont présenter leur proposition en 1967. Une limousine deux volumes pour Renault, une tricore réalisée par Pininfarina s'il vous plaît pour Peugeot. La tendance est déjà inscrite. La voie de l'originalité pour Renault, dans la foulée de la 16 lancée en 1965 et qui fait pour l'instant office de haut de gamme au sein de la régie. La voie du classicisme pour Peugeot, qui reste sur ses fondamentaux, inscrit dans le marbre par la 404 et bientôt la 504, alors en gestation. Le projet H devait aboutir à un seul modèle, commun aux deux marques, ne trouvant pas d'accord, il sera purement et simplement enterré, laissant Renault travailler sur le projet 127 et Peugeot sur le 24. Seul le moteur fera un trait d'union entre les deux voitures. Le V6 est acté en 1971 avec l'appui du constructeur Volvo. Mais le V8 est rapidement abandonné. Mais les deux constructeurs resteront, cela dit, sur un accord. À Renault, la traction et le haillon, à Peugeot, la propulsion et le tricore. Les deux constructeurs s'entendent même sur un ordre de sortie. Renault en premier, puis Peugeot pour le projet 127. Lancé officiellement en 1970, c'est Gaston Juchet qui s'y colle et qui signe une berline originale, habitable. La notion d'espace, d'ailleurs, sera souvent avancée dans les publicités. Pratique, mais clivante. Une petite anecdote maintenant, le 13 juin 1973, les premières photos volées du projet 127 paraissent dans l'Auto-Journal. Jean Mistral l'imagine sous le nom de la Renault 23. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que le projet 127 est plus large qu'il ne paraît. Sous une même carrosserie se profilent deux modèles. L'un, qui sera nommé Renault 20, devra lutter face à la Peugeot 504 ou la Citroën CX, quand l'autre, nommé Renault 30, s'attaquera à la Peugeot 604 et aux berlines allemandes. L'appellation R23 faisait donc la synthèse des deux, une solution qui sera d'ailleurs retenue plus tard avec une certaine R25. Les deux constructeurs à l'époque s'étaient mis d'accord sur la sortie de leur voiture. Renault devait présenter en premier sa Renault 30 au salon de Genève de mars 1975, tandis que Peugeot se réservait le salon de Paris d'octobre pour la présentation de sa Peugeot 604. Or, les relations entre les deux constructeurs se tendirent au cours de l'année 1974. Avec l'annonce du rachat de Citroën par Peugeot, créant le groupe PSA, une fusion qui ne sera effective d'ailleurs qu'en 1976, Renault prend la mesure de la nouvelle voiture de son partenaire, mais néanmoins concurrent, et n'hésite pas à débaucher Robert Aupron d'une part et 125 concessionnaires d'autre part. Le gentleman agreement qu'il y avait entre deux était alors rompu, puisque l'Auto-Journal avait révélé début mars les lignes de la Peugeot 604. Peugeot vint gâcher la fête en catastrophe en exposant son prototype à Genève. La guerre était alors déclarée. Mais en réalité, cela ne changeait pas grand-chose et Renault maintient son programme avec une présentation de presse en avril 1975 réunissant de nombreuses Renault 30 TS dorées sur les Champs-Élysées pour les essais des journalistes. La voiture est compacte, 20 cm de moins que la Peugeot 604, mais presque plus spacieuse grâce à son traitement bicore et son hayon. Son V6 de 2664 cm3 est le même que celui de la Peugeot 604. Avec ses deux carburateurs, un simple corps et un double corps, mais ne développe que 131 chevaux contre 136 chevaux à la version socialienne. Comme pour la socialienne, la Renault 30 est fabriquée à Sandouville. Elle propose une boîte manuelle à 4 vitesses ou une boîte automatique à 3 vitesses. Autant dire que le choix se portera sur autre chose. Le style, le type, traction ou propulsion, et peut-être le camp politique. Car à l'époque, le choix d'une Renault, c'était aussi d'une certaine gauche, des syndicats et du rejet des très bourgeoises Peugeot ou Citroën. En novembre 1975, la Renault 20 est lancée et vient compléter la gamme par le bas. En août 1976, la Renault 30 TS, qui est la seule proposition de la gamme aux losanges, voit son moteur évoluer. Tandis que le PRV continue d'afficher 136 chevaux chez Peugeot, il dégonfle chez Renault pour ne proposer que 126 chevaux en perdant son carburateur simple corps pour ne conserver que le double corps. Si la puissance baisse, le couple, lui, augmente et promet une conduite plus souple. Mais malheureusement, cette évolution n'est pas suffisante. Certes, les ventes sont correctes, car 32 485 exemplaires trouveront preneur en 1976. Des chiffres de vente d'ailleurs assez proches de celles de la Peugeot 604. Mais comme chez Peugeot, on reste en dessous des espérances. La copie sera donc revue en octobre 1978 avec l'apparition d'une bien plus brillante Renault 30 TX. Avec la Renault 30 TX, l'équipement progresse, le sentiment de luxe aussi, sans pour autant atteindre la concurrence germanique de l'époque. Côté moteur, le V6 gagne une injection mécanique, Teuton justement, un Bosch K Jetronic. À la clé, une puissance réévaluée à 142 chevaux, presque identique à celle de la Peugeot 604 de l'époque. Et un agrément de conduite supérieur. Ce changement s'accompagne aussi d'une hausse de prix, mais les ventes reprennent dès 1979, passant de 19 963 exemplaires à 22 438. Malheureusement, cette année-là, la crise pétrolière passera par là. Due à la révolution iranienne en janvier, cause une vraie désaffection pour les moteurs V6 et surtout ceux qui, comme le PRV, gloutonnent plus que de raison. Les chiffres de vente vont donc s'effondrer en 1980, atteignant le niveau très bas de 11 521 exemplaires seulement découlés. Allez, tout de suite, une petite page musicale avec Robert Palmer, Johnny and Mary, le célèbre slogan publicitaire de la marque aux losanges dans les années 80. Et ben là, on se retrouve avec le titre original et on se retrouve tout de suite après pour les 50 ans de la Renault 30. C'était Robert Palmer, Johnny and Mary. Allez, on se retrouve sans plus attendre pour la suite des 50 ans de la Renault 30. L'année 1980 était une année compliquée pour la Renault 30. Renault prend les mesures qui s'imposent avec du retard sur Peugeot. Introduire une motorisation turbo-diesel sous le capot de sa vénérable berline et séduire ainsi les gros rouleurs avides de confort, de sobriété, d'économie et d'un peu de puissance tout de même. C'est ainsi qu'en 1981, Renault lance la Renault 30 Turbo D, dont le moteur Douvrin de 2068 cm3, dopé au turbo, donne 85 chevaux au banc. L'offre pourrait être intéressante si la Renault 20 ne la proposait pas aussi. De fait, la Renault 30 n'avait pas grand-chose à proposer pour un tarif bien supérieur à la Renault 20. La version turbo-diesel de la Renault 30 prendra donc rapidement le pas sur le V6 PRV de la Renault 30 TX, devenu presque incongru sur un marché français encore sonné par la crise pétrolière. Si les ventes peinent à atteindre les 15 000 unités, c'est toujours mieux que la Peugeot 604 qui, elle, subit les assauts de plein fouet en interne de sa sœur, la Peugeot 505, bien plus convaincante à l'époque. La carrière de la Renault 30 s'arrêta en octobre 1983, après 136 403 exemplaires sortis des chaînes de fabrication. Un score quasi similaire d'ailleurs à celui de la Peugeot 604, avec 153 252 unités, qui elle, par contre, bénéficiera de 2 millésimes de plus. Mais contrairement à son partenaire du début et rival à la fin, Renault fera rapidement la synthèse et réagira promptement en lançant dès 1984 une certaine Renault 25, ultra moderne pour l'époque. Cette capacité de réaction que n'avait pas alors PSA à l'époque, engluée, elle, dans sa quasi-faillite au début des années 80 et omnibulée par le lancement cruciaux de la BX et de la 205, d'ailleurs un pari gagnant puisque ces deux modèles permettront au groupe PSA de sortir de l'ornière. Renault donc va dominer de la tête et des épaules le haut de gamme français jusqu'à l'arrivée tardive des Citroën XM et Peugeot 605 à partir de 1990. Pendant 6 ans donc, la Renault 25 s'imposera comme le seul haut de gamme français en assimilant les échecs et les réussites du duo R20-R30, le fameux projet 127. Joyeux anniversaire la R30. Voilà, cette émission s'achève. Le temps qui nous était imparti est parti, donc sur les 50 ans de ce haut de gamme français qu'était la Renault 30. Je vous dis quant à moi à la semaine prochaine pour la seconde partie, donc de l'histoire des voitures françaises d'hier et d'aujourd'hui, avec les 50 ans de la Peugeot 604. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine et une très bonne route.